soir, nous allons essayer d'entrer dans ce problème que nous avions posé la dernière fois, c'est-à-dire essayer de pénétrer philosophiquement, je dis bien, et non pas au point de vue théologique, donc philosophiquement dans ce que représente l'éthique chrétienne. Alors, je rappelle en deux mots, puisque c'est important pour nous de bien comprendre la perspective dans laquelle nous nous plaçons, d'essayer de comprendre comment, dans une perspective philosophique, je peux regarder Jésus comme nous donnant une nouvelle éthique. Ce serait la réponse, vous voyez, de cette recherche de Nietzsche par rapport au surhomme. Je crois que c'est important pour nous. Nous n'avons pas le droit de ne pas répondre à ce désir de Nietzsche et d'essayer de saisir comment, de fait, cette réponse, elle est donnée. Elle est donnée non pas par un point de vue purement philosophique, elle est donnée par un point de vue d'un philosophe qui regarde un homme qui a vécu au milieu de nous d'une manière surhumaine. Jésus est vraiment un surhomme, philosophiquement parlant. Il a vécu d'une manière unique, et il a été chef religieux, il a fondé une école, nous l'appelons au point de vue de la foi le christianisme, mais je peux dire au point de vue philosophique, il a fondé une école d'un bonheur nouveau par les béatitudes évangéliques. Et les béatitudes évangéliques représentent bien une éthique chrétienne nouvelle. Alors, je voudrais avec vous ce soir regarder le statut de la liberté dans l'éthique chrétienne. Et c'est quand même très important de voir cela. C'est très vaste comme sujet. Alors, nous allons essayer d'abord de voir ce qui caractérise cette éthique chrétienne. Et puis j'essaierai avec vous d'en voir le sommet dans la vie de Jésus. Cette vie de Jésus qui nous est donnée comme modèle. Les stoïciens donnaient Socrate comme modèle. Et c'était toujours à Socrate qu'on revenait pour comprendre ce qu'était l'homme dans toute sa force. Je crois qu'au point de vue philosophique, nous avons parfaitement le droit de regarder Jésus comme le nouveau Socrate, c'est-à-dire comme celui qui a été plus loin que Socrate, à la fois plus humain, plus proche de nous que Socrate. Vous savez bien qu'il y a trois Socrates, en ce sens qu'il y a trois aspects dans la vie de Socrate. Socrate sophiste, Socrate guerrier, capitaine avec Xénophon. On voit très mal Socrate avec une tenue militaire, mais ça fait rien, il est. Et puis Socrate, à la fin de sa vie, le sage. Alors on pourrait dire que dans la vie de Jésus, vous avez la vie cachée, il n'a pas été militaire. La vie cachée, la vie au désert, et puis la vie apostolique. La vie au désert a été très rapide, elle était quand même un moment important dans la vie de Jésus. Et puis l'aspect proprement apostolique de la vie de Jésus. Il faut saisir à travers la vie de Jésus ce que représente cette liberté nouvelle, cette liberté du chrétien, qui n'est pas la même liberté que la liberté de l'homme philosophe. Socrate a été un homme libre, très libre. Et c'est peut-être ce qui séduisait le plus les jeunes, de voir la liberté d'un Socrate. Il faudrait arriver à découvrir que la liberté du Christ est encore beaucoup plus grande que celle-là. Elle va beaucoup plus loin. Alors, si vous voulez, au point de départ, puisque nous sommes en philosophie, il est important de comprendre les diverses modalités dont on peut parler d'un acte libre. Parce que quand on parle de la liberté, on n'a aucune expérience de la liberté. La liberté, c'est une abstraction. C'est pour ça qu'on aime de la représenter par une statue. Mais pas, c'est une abstraction. Vous n'avez jamais rencontré la liberté, moi non plus. Tandis que je peux analyser ce que c'est qu'un acte libre. Et je crois qu'il faut toujours revenir à un acte libre, au point de vue philosophique. Parce que l'abstraction, la liberté, c'est quelque chose de merveilleux, comme idéal. Mais c'est un idéal qu'on ne saisit pas directement. Je saisis ce que c'est qu'un acte libre. Je crois qu'il faut toujours, au point de vue philosophique, regarder l'acte libre de l'artiste. Normalement, l'artiste est un homme libre. Les grands artistes sont très libres. Les petits, beaucoup moins. C'est normal. C'est du reste comme ça qu'on peut voir s'il est grand ou petit, indépendamment de ses œuvres. Mais on peut considérer qu'un artiste implique un certain type de liberté. Je crois que la liberté de l'artiste est toujours un peu analogue à cette fable de La Fontaine que nous connaissons bien et qui est extraordinairement riche, le loup et le chien. Vous voyez bien, vous connaissez cette fable qui est très philosophique et qui nous montre deux types de liberté. Je ne sais pas comment aujourd'hui on les nommerait, mais je crois qu'aujourd'hui on les nommerait d'une façon très spéciale. Le chien voit que, je veux dire, le loup voit que le chien, il est bien grand, dodu. Il a l'air de rien lui manquer. Le loup l'interroge. Et le chien fait évidemment état de son état particulier qui est extrêmement pur. Un bon fonctionnaire qui, par le fait même qu'il est un bon fonctionnaire, est sûr d'avoir sa pitance au bon moment. Le loup écoute, puis fait le geste. Tiens, qu'est-ce que tu as au cou ? Oh, rien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les marques d'un collier. Alors, on sait très bien comment ça se passe. Le loup n'a pas de collier. Le loup est libre. Évidemment, il y a des jours où il ne mange pas. Il mange avec les anges. C'est-à-dire que c'est assez climat de carême, n'est-ce pas ? C'est pas grand-chose. Mais il a mieux sa liberté que d'avoir ce collier. Et d'avoir l'assurance que tous les jours, il aura son repas. Je crois que c'est très important de voir ça, c'est très intéressant. La liberté de l'artiste est quelque chose de très particulier. Un artiste aime d'être libre. Et s'il n'aime pas cette liberté, très vite, il dégringole. Il n'est plus un véritable artiste. Quand un artiste dépend trop de son public, il perd en dignité. Et souvent, il y a une répercussion sur son art. J'y reviendrai. Il y a la liberté de l'ami. C'est pas du tout la même, pas du tout la même chose. C'est pas un collier. L'amitié ne nous fait pas fonctionnaires l'un de l'autre. Ce serait contraire à l'amitié. Il y a une liberté d'un type tout à fait particulier qui est la liberté de l'ami. Un ami connaît vis-à-vis de son ami une très grande liberté. C'est pas la même. Je dirais qu'il y a un troisième type de liberté, la liberté religieuse. Et un quatrième type de liberté, la liberté du chrétien. Je crois qu'il faut poser le problème en voyant ces divers moments de l'acte libre. Qu'est-ce qui caractérise chacune de ces divers modalité d'acte libre. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez bien, je ne crois pas. Parce que je ne parlerai pas de la liberté du fonctionnaire. Hein. Ce serait un peu de mauvais goût. Vous pourriez parler de la liberté qu'on a à l'armée. Vous verriez ce genre de liberté qu'on peut avoir. La liberté du pensionnaire, hein, vous voyez. Non, la liberté de l'artiste est quelque chose de très caractéristique. L'artiste est libre en fonction de son inspiration. C'est pour ça que seuls les grands artistes sont libres. Les petits artistes qui n'ont pas beaucoup d'inspiration et qui copient n'ont pas de liberté. Tandis qu'un artiste qui a une véritable inspiration, il a une certaine liberté. Et même une liberté très grande. Parce qu'il est porté par son inspiration au-delà de ce que les autres, les hommes qui sont ses contemporains, voient. En tant qu'il est inspiré, il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Il a une tête de plus. Donc il a une vision différente. Et grâce à sa vision différente, par rapport à tous les autres, il a une liberté. Une liberté qui repose, encore une fois, sur son inspiration, sur l'intuition qu'il a dans son inspiration. C'est une liberté qui repose sur la connaissance avant tout. Liberté très spéciale. C'est la liberté d'accepter ou de refuser les offres qu'on lui demande, les commandes qu'on lui demande. Il peut les refuser catégoriquement. Ça ne correspond pas à ce qu'il a dans son inspiration. Il peut l'accepter. Il est libre. Donc il est souverainement libre. Puisque c'est une liberté qui, d'acceptation ou de non-acceptation. J'accepte ou je refuse. C'est une liberté qui porte sur l'application qu'il aura à réaliser telle œuvre ou au contraire à ne pas réaliser cette œuvre. On dirait une liberté d'exercice. Et ça fait bien comprendre la chose. C'est-à-dire une liberté dans l'ordre de l'application. Il peut accepter cette commande ou la refuser. La liberté dans l'ordre de l'amitié. C'est une liberté qui repose sur l'amour. Vous voyez comme c'est différent. Les fondements ne sont pas les mêmes. C'est ça qui est intéressant. et que très facilement on confond. Vous voyez, si vous regardez la liberté telle que Sartre la donne dans sa philosophie, vous voyez que Sartre pratiquement parle de la liberté de l'artiste. Et ce n'est pas du tout la liberté de l'homme moral. Ce n'est pas du tout la liberté de l'homme ami. Il parle de la liberté de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il parle de la néantisation. Il faut néantir tout ce qui est autour de nous pour pouvoir être libre. En réalité, l'inspiration me permet d'être au-dessus. Pas besoin de néantir. Mais l'artiste est toujours un peu méprisant. Ça veut bien pour le bourgeois. C'est le loup un peu méprisant pour le chien qui a son collier. On voit très bien ça. Moi, je suis au-dessus de ça. Ça ne m'intéresse pas. La liberté de l'ami, c'est une liberté qui repose sur l'amour. Plus l'amour est fort entre deux amis, plus les amis se sont liés l'un à l'autre dans un choix qui est en même temps une intention de vie, plus ils sont libres à l'égard de ce que représente le choix des moyens. L'amour nous libère à l'égard des moyens. Plus notre amour est fort, plus nous sommes libres à l'égard des moyens. Celui qui n'est pas libre à l'égard des moyens, les moyens, vous voyez ce que je veux dire, le conditionnement de notre vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avoir telle ou telle attitude, choisir telle ou telle route, et des choses comme cela. Des tas de choses secondaires. Les moyens, c'est toujours quelque chose de secondaire. C'est très important, mais c'est quelque chose de secondaire. Plus l'amour est fort, plus l'amour est intense, plus on est libre à l'égard des moyens. On les choisira avec une liberté très grande et on montrera très bien qu'au fond, ça ne nous faut pas grand-chose parce qu'on est pris par l'amour. Et alors, quand on est vraiment pris par quelqu'un qu'on a choisi comme ami et qui fait partie de l'intention de notre vie, qu'on aime profondément. On dit le propre des amis, c'est d'avoir le même vouloir. Attention, le même vouloir par rapport à la fin. Mais pas du tout le même vouloir par rapport au choix des moyens. Autrement, l'amitié deviendrait une tyrannie. On a tellement peur de perdre son ami qu'on veut qu'il choisisse toujours de la même manière que nous. Alors ça nous donne une sécurité. On veut toujours qu'il pédale du même pas que nous. Ça nous donne une sécurité, c'est parce qu'on n'est pas très sûr sur l'amour qu'il a pour nous. On n'est pas très sûr vraiment qu'il nous a choisis. Alors à ce moment-là, on reporte tout son élan ou toute son orientation sur les moyens qu'on choisit. Il y a une espèce de compensation. C'est très curieux de voir ça. Pensez un tout petit peu à tel ou tel ami que vous connaissez. Et les différentes sortes d'amitié que vous voyez tout de suite que quand deux êtres s'aiment profondément, ils sont liés par rapport aux moyens choisis. Très grande liberté. Parce que leur amour est très fort. Et leur amour porte sur la personne. On aime l'autre. C'est la personne de l'autre qu'on aime. Ce ne sont pas ses qualités. Oui, ce sont ses qualités aussi, mais en second. Ce n'est pas telle ou telle manière de vivre, c'est en second. Ce qu'on aime, c'est sa personne. Et ce qu'on veut, c'est son bien. C'est le bien de la personne de l'autre. Vous voyez, quand l'amour d'amitié regarde encore trop les choses extérieures et ne va pas assez loin dans la personne, on est beaucoup moins libre. Alors on veut toujours faire les mêmes choses que l'autre. Et c'est ça qui explique comment des amitiés se fatiguent. C'est rien de plus fatigant d'avoir tout le temps quelqu'un qui court après vous. Comme un petit toutou, c'est vraiment très fatigant, ça ne va pas du tout ça.
ça va pas du tout, parce que justement, il a peur de perdre la piste. Il a peur de ne plus se rencontrer. Alors ça fatigue, ça. Tandis que quand on sait qu'on s'aime, très bien. On ne pèsera pas tout à fait du même pas pour telle ou telle chose. On aura des choix différents. Ça n'a pas d'importance. Le lien est tellement fort qu'on devient libre à l'égard des moyens. Et ça, c'est le propre d'un amour d'amitié véritable qui engendre une très grande liberté. On est libre dans le choix de ces différentes orientations qui sont secondaires du reste, parce qu'on sait qu'on se retrouvera et on sait qu'on s'enrichira mutuellement par ces points de vue différents. À certains moments, on voudra rejoindre l'ami dans les choix concrets, c'est bien évident, mais on garde toujours cette liberté. Troisième acte de liberté, la liberté religieuse. Nous avions vu comment l'éthique religieuse reposait sur l'adoration. Je reprends ici ce que nous avions vu déjà, très rapidement. À ce moment-là, je ne vous ai pas parlé tellement de la liberté, j'en parle maintenant. Quand nous découvrons notre lien avec notre Créateur, quand philosophiquement nous découvrons la manière de nous relier à celui qui est notre Créateur et que nous répondons à son amour gratuit, nous sommes aimés gratuitement par notre Créateur. Et nous savons que l'acte créateur est un acte absolument gratuit, c'est-à-dire que Dieu ne se perfectionne pas en nous créant. Parce que si Dieu se perfectionnait en nous créant, on serait beaucoup moins libre. Mais du fait même que Dieu ne se perfectionne pas en nous créant, qui nous a créés par pur amour pour nous, vraiment un amour d'une pureté absolue, c'est un don d'une gratuité absolue, l'acte créateur. Par le fait même, notre réponse à cet acte créateur, il se fait par l'adoration. Cet acte d'adoration est lui-même un acte libre. Nous répondons librement à Dieu. Donc, il y a dans l'acte d'adoration un type de liberté qui est quelque chose de nouveau. Il s'agit de répondre à un acte gratuit d'amour. Nous savons très bien que c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour nous, puisque Dieu ne peut être que la seule véritable finalité de mon esprit, une finalité qui s'impose à moi d'une manière unique. Mais je sais que Dieu veut que cette réponse soit libre, parce que Dieu, étant amour, veut que cette réponse soit absolument libre. Et donc mon acte de réponse à l'égard du Dieu créateur qui se donne à moi ou qui crée dans une liberté totale, cet acte de réponse implique une modalité absolument libre. Cette liberté, elle repose sur quoi? La liberté de l'artiste repose sur l'inspiration. La liberté de l'ami repose sur son amitié à l'égard de celui, de celle qu'il a choisi. Cette liberté religieuse repose sur l'amour même du Créateur pour moi, qui est un amour gratuite. Et je prends conscience de cette gratuité de cet amour qui réclame de ma part un acte gratuit d'amour. L'adoration, nous l'avons vu, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour très embryonnaire, très caché, mais très secret, très profond. C'est ce qu'il y a de plus intime en moi, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi, c'est cet appétit naturel qui me porte comme partie vers mon tout. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi, et ça repose sur cet amour. Cet amour appelle un autre amour. Cet amour libre réclame un amour libre. Et je réponds en m'offrant, sachant que me remettre entre les mains de celui qui est mon Créateur, c'est pour moi la source de la plus grande paix et de la plus grande liberté. Parce que je suis absolument libre à ce moment-là à l'égard de tous les autres conditionnements. Vous voyez, quand on est trop dépendant du milieu dans lequel on est, ça peut arriver. On a un milieu familial qui est particulièrement fort. On a un milieu social qui réclame de nous des quantités de conventions. On est donc terriblement limité dans la manière dont on peut agir. Et on le sent, on est aliéné par des quantités de choses. À ce moment-là, avant de réagir brutalement, il y a une manière de se libérer intérieurement, de comprendre qu'on est plus intimement lié à Dieu, notre Créateur, qu'à l'égard de toutes les autres réalités. Et ceci, alors, permet, vous voyez, cette respiration profonde de l'âme spirituelle, qui à ce moment-là découvre une liberté nouvelle. Parce qu'elle est dans les mains, c'est le symbolisme que nous prenons habituellement quand on dit qu'on se remet dans les mains de Dieu. On se remet dans la toute-puissance de celui qui est notre Père et qui nous aime. Et c'est à ce moment-là que nous découvrons ce que peut être cette attitude fondamentale d'un abandon pas psychologique, mais religieux, c'est-à-dire humain. On ne peut s'abandonner que dans les mains de Dieu. Comme un enfant ne peut s'abandonner que dans les mains de sa mère. Il ne s'abandonne pas en dehors des mains de sa mère. On a tous fait cette petite expérience. Un tout petit gosse, quand il est dans les bras de sa mère, est très heureux. Et puis dès que la mère vous le confie, alors il se met à crier, à se débattre comme un pauvre malheureux. Eh bien, c'est symbolique, ça. C'est très joli. C'est exactement la même chose. Hein. C'est que quand on est dans les mains de quelqu'un qui n'est pas notre Créateur et notre Père, nous nous débattons comme des pauvres types. Parce qu'on n'est pas vraiment libre. Et on sent qu'autour de nous, il y a toujours des requins qui veulent toujours nous prendre et nous saisir. Alors, ce geste d'amour, de se remettre entre les mains de Dieu dans l'adoration, nous donne cette grande liberté, la liberté de l'âme religieuse. Mais vous voyez bien que c'est une liberté purement intérieure, hein, parce que vis-à-vis de notre pauvre corps humain, notre sensibilité, ça ne change pas notre milieu. Et nous restons avec la même dépendance. Mais nous avons une source nouvelle d'amour, qui est ce lien avec Dieu. Et ce lien avec notre Créateur nous donne une nouvelle possibilité d'élan, et donc une nouvelle liberté. Et je dirais, grâce à cette liberté, nous pouvons regarder ce qui est autour de nous, avec un regard beaucoup plus libre. C'est un regard de sagesse. Nous voyons qu'au fond, la situation dans laquelle on est actuellement est peut-être pénible, difficile, mais que cette situation est secondaire. Tous ceux qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas grand-chose sur nous. Oui, ils peuvent nous empêcher d'avoir certaines relations, de réaliser certaines choses, mais ils ne peuvent pas toucher ce qu'est plus profond en nous. Et c'est pour ça que cet acte d'adoration est source d'une nouvelle liberté. Il est lui-même libre et il est source d'une nouvelle liberté à l'égard de tout le milieu dans lequel on est. Et je crois que c'est à partir de là que nous devons comprendre cette nouvelle liberté que Jésus nous donne. La liberté du chrétien. La liberté du chrétien, elle est affirmée constamment dans la révélation. C'est saint Paul qui nous dit que c'est celui qui est mu par l'Esprit Saint qui est libre. C'est très curieux parce qu'à première vue, c'est contradictoire. Quand on est mu par quelqu'un, on n'est pas précisément libre. Quelqu'un du haut de l'escalier vous meut pour vous faire dégringoler l'escalier, vous n'allez pas dire « Oh, comme je suis libre !» Pas du tout. Vous avez été mu par quelqu'un de plus fort que vous et il vous a précipité. Il vous a précipité et à ce moment-là, il y a eu la chute. Et vous ne direz jamais que c'est une nouvelle liberté. Ce qui est très curieux dans ce langage de saint Paul, c'est qu'il nous dit que ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont libres. Là, ça a l'air tout de suite le philosophe, hein, parce que ça a l'air contradictoire. Ça a l'air d'être quelque chose qui ne va plus du tout. Si je creuse un peu, je me dis qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Toujours pour le philosophe, hein. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit d'amour qui m'est donné en surabondance. Ce n'est pas l'acte créateur de Dieu. C'est un acte qui vient en surplus, en surcroît, qui est donné gratuitement, lui aussi, d'une gratuité absolue. Ce n'est pas du tout du nécessaire. C'est très important de souligner la gratuité de l'acte créateur et la gratuité encore plus grande de ce don de l'Esprit Saint. Parce que la gratuité engendre la gratuité, vous voyez. Et un acte qui est donné, un don qui est donné gratuitement et qui est donné vraiment dans la liberté est source pour nous d'une nouvelle liberté. Alors je crois qu'il faut essayer de comprendre comment le don de l'Esprit Saint. C'est un don de surcroît d'amour. Et c'est vraiment un don d'amour qui est donné en vue d'une nouvelle finalité. Si l'Esprit Saint m'est donné, si l'Esprit de Dieu m'est donné, c'est pour que je puisse orienter ma vie vers quelque chose qui est plus grand que ce que mon intelligence humaine peut atteindre. Que ce que mon cœur humain peut atteindre, m'orienter vers un bonheur qui me dépasse complètement. Je suis appelé par l'Esprit Saint, et l'Écriture me le dit, à vivre une vie d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Je suis d'une race royale et divine. Par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint, je suis appelé à entrer dans un rythme de vie qui n'est plus le rythme de vie de ma vie humaine, de ma vie prudentielle, de ma vie d'amitié avec quelqu'un d'autre. Je suis appelé à vivre un rythme de vie qui provient d'en haut. La naissance d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème, cette naissance de l'eau et de l'esprit, on retrouve. Et cette naissance d'en haut de l'eau et de l'esprit me fait comprendre que cette naissance qui se fait d'en haut, par l'amour qui m'est donné gratuitement, m'oriente vers quelque chose qui me dépasse complètement. Celui qui est né de l'esprit, dit Jésus à Nicodème, il est comme celui qui entend la voix du vent. Il ne sait pas d'où il vient et où il va. Il ne peut plus lui-même contrôler d'où il vient et où il va. C'est très beau que Jésus dise ça à Nicodème, hein, parce que Nicodème était un théologien et Nicodème était habitué à raisonner. Et voilà que Jésus fait comprendre que celui qui est né de l'esprit et donc qui vit la dépendance de l'esprit doit accepter, non pas de déraisonner, mais doit accepter de lâcher le raisonnement. C'est très très difficile, hein, pour quelqu'un qui est habitué à raisonner. Pour un théologien, c'est très difficile ce que Jésus demande. Et pourtant, Jésus le dit. Jésus aurait dit ça à la Samaritaine, on aurait compris, parce qu'elle avait plusieurs expériences de déraisonnement, n'est-ce pas? Mais au fond, pour un théologien, c'est tout à fait différent, parce qu'il est habitué de raisonner. Et Jésus ne dit pas ça du tout à la Samaritaine, vous voyez, il ne lui donne pas un mauvais conseil. Hein. Tandis qu'à Nicodème, il lui donne un bon conseil. Il s'agit de se mettre au-delà. Il s'agit d'entendre la voix du vent. C'est merveilleux, du reste. Hein. On voit très bien un Nicodème habitué au désert. Dans le désert, quand il n'y a pas un nuage, on entend la voix du vent. On ne sait pas d'où il vient et où il va. On met du temps à découvrir d'où ça vient et où ça va, la voix d'esprit. Donc, celui qui est sous la mouvance de l'esprit doit accepter de laisser l'esprit le diriger, non pas là où il veut, mais là où l'esprit lui-même le dirige. Accepter d'être sous cette mouvance de l'esprit en laissant l'esprit lui donner lui-même sa lumière. Il entend la voix. C'est la seule chose. C'est pas la parole, c'est la voix. C'est le souffle. Il se laisse mener. Il se laisse conduire. Vous allez me dire, mais ça, c'est juste l'inverse de la liberté. C'est ce que Hegel a très bien compris quand il compare la différence d'un grec libre avec Abraham qui se laisse conduire par la voie de l'esprit et qui accepte un esclavage. Il faut bien se dire ça, vu de l'extérieur, à la manière de Hegel. Être mu par l'esprit, mais ce n'est plus du tout se conduire. C'est laisser l'Esprit Saint, selon la formule des grands théologiens et de saint Thomas, être directeur et rector. Si c'est l'Esprit Saint qui est directeur et rector, ce n'est plus nous. Selon la vieille formule des anciens, la prudence fait que nous sommes capables de nous diriger, de nous sommes capables nous-mêmes de nous orienter. Nous avons au-dedans de nous-mêmes une lumière et nous avons au-dedans de nous-mêmes une possibilité de nous orienter. Donc, il faut bien dire que être sous la mouvance de l'esprit, c'est accepter peut-être un saint esclavage. Mais c'est un esclavage. Ce n'est plus du tout la liberté. C'est la caricature de la liberté. Hegel l'a dit. Et ça a été répété après, ça a été repris après. Et dans la mesure où nous sommes disciples de Hegel, nous pensons toujours un peu comme ça. Et c'est pas étonnant que les disciples de Hegel ont supprimé toute la mystique au nom de la liberté. Adam, il faut rester rationnellement des hommes. Il faut se diriger soi-même dans sa propre dialectique et selon les exigences de cette dialectique. À ce moment-là, il n'y a plus, il ne peut plus y avoir d'enfant de Dieu. Et c'est l'homme rationnel qui domine tout. Ah, voyez la réaction d'un Nietzsche. On comprend très bien ça. On comprend très bien qu'après Hegel, avec ce rationalisme qui au fond condamne d'être sous la mouvance de l'esprit, on comprend qu'il cherche une autre issue en disant par la création peut-être qu'on trouvera. Je crois qu'il faut répondre à Nietzsche, qu'il faut répondre à Hegel et qu'il faut comprendre que être sous la mouvance de l'esprit, ce n'est pas un esclavage. Et c'est là où la parole de Jésus est très importante. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Et quand Jésus nous dit de l'eau, le symbolisme de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Le symbolisme de l'eau, c'est notre volonté humaine. C'est notre propre volonté humaine. On peut découvrir d'autres significations, mais c'est en premier lieu cela. Et nous savons, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Et nous savons que l'Esprit Saint a un respect infini vis-à-vis de notre liberté. Jamais l'Esprit Saint n'ira contre notre volonté. Il aime mieux se taire. Il aime mieux disparaître que d'aller contre notre volonté. Parce que il ne peut pas supprimer ce que lui-même a fait. Dieu, en créant un esprit, en créant une âme spirituelle, Dieu a voulu des sources libres d'amour. Parce qu'il ne peut pas y avoir un véritable amour sans la liberté. Et donc si l'Esprit Saint agissait de manière telle qu'il faisait de nous des esclaves, il y aurait une contradiction entre le mystère de la création et le mystère même de l'Esprit Saint qui nous est donné par le Christ dans la rédemption. Il y aurait une espèce de contradiction. L'Esprit Saint détruirait ce que Dieu lui-même a fait, ce que le Père a fait, en voulant créer en nous des esprits libres, en voulant créer en nous des volontés libres. C'est parce qu'on ne peut pas dire ça. Et c'est du reste contraire à tout ce qui nous est montré dans l'Écriture. Hegel avait scruté un peu plus ce que Jésus dit à Nicodème, s'il avait scruté un peu plus l'évangile de Saint Jean, il aurait vu que Dieu veut que nous soyons des enfants libres. Libres dans cet amour qui nous est donné. Alors comment comprendre cela? Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. L'Esprit Saint ne peut pas agir sur nous sans notre consentement, sans notre liberté. Il n'agit sur nous que si nous lui demandons d'agir sur nous. Je sais très bien qu'il y aurait certains aspects qu'il faudrait préciser quand on regarde la conversion d'un Saul de Tarse. Ou alors vous pourriez dire, là l'Esprit Saint a agi d'une manière tellement violente qu'il a violenté Saul de Tarse. C'est vrai, quand je regarde de l'extérieur, il a été jeté bas de son cheval. Et Dieu a mis des écailles à ses yeux. très drôle, ça. Ça, c'est l'ordre charismatique. Vous voyez, l'ordre charismatique, de temps en temps, a ses aspects un peu de violence à l'extérieur. C'est très curieux, ça. Ça, c'est tout l'aspect charismatique. C'est intéressant à voir, du reste. Il y a quelque chose de violent dans l'aspect charismatique. Ça nous prend, ça nous saisit de notre sensibilité et ça nous terrasse. Alors que le suavitaire, l'aspect suave de l'Esprit Saint, c'est de l'intérieur. Il agit de l'intérieur, pour nous transformer de l'intérieur. C'est très curieux, ça. C'est important de saisir, parce qu'il y a comme deux voies différentes dans la liberté chrétienne. Et nous essaierons de... questions notre cœur et notre volonté de la manière la plus intime qui soit. Et cette action intime de l'Esprit Saint ne se fait sur nous qu'avec notre consentement. Il faut naître de l'eau, c'est-à-dire de notre bonne volonté, paix aux âmes de bonne volonté. Si c'est paix aux âmes de bonne volonté, c'est-à-dire aux âmes qui s'ouvrent à l'action d'Esprit Saint et qui ont soif d'être ouverts à l'action d'Esprit Saint. Et c'est dans la mesure où nous sommes ouverts à cette action de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint se sert alors de nous. Mais il s'en sert librement. C'est parce que nous lui avons demandé d'agir sur nous. Et c'est pour ça qu'il agit sur nous. Autrement, il n'agirait pas. Nous aurions, si vous voulez, certains exemples très nets qui nous aideraient de comprendre cela. Quand on aime quelqu'un qui a des qualités beaucoup plus grandes que nous, d'intelligence, de cœur, quand on l'aime, on lui dit « Mais n'hésite pas de me dire ce que je dois faire. N'hésite pas de m'orienter. N'hésite pas, tu sais bien, tu me connais mieux que je te connais. Tu me connais mieux que moi-même je me connais. Alors n'hésite pas de me dire. Bon, si dans l'ordre humain c'est déjà vrai, dans l'ordre d'amitié on connaît très bien cela, dans les domaines où notre ami connaît beaucoup mieux que nous certaines choses, on lui dit, on lui remet en quelque sorte notre capacité de nous orienter et notre capacité de nous éclairer. Parce qu'il s'agit de l'Esprit Saint, qui est Dieu, qui est l'amour, et qu'on comprend qu'il nous est donné. Alors à ce moment-là, on n'a qu'un seul désir, c'est d'être sous sa mouvance. Et on lui demande librement. Et donc il y a une coopération qui se fait de notre âme sanctifiée par la grâce, de notre âme unie au Christ avec l'Esprit Saint. Et on fait une œuvre commune avec l'Esprit Saint. Ce n'est plus seulement l'Esprit Saint qui agit, c'est nous avec l'Esprit Saint. Et c'est là où nous découvrons cette nouvelle liberté des enfants de Dieu. C'est là où nous découvrons ce que c'est que la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, c'est cette liberté que nous découvrons en nous, elle est tout intérieure. Elle n'est pas premièrement à l'extérieur, elle est premièrement intérieure. C'est cette liberté que nous découvrons en nous par ce surcroît d'amour qui nous est donné par l'Esprit Saint, par cette surabondance d'amour qui nous est donnée par l'Esprit Saint, par cette survie qui nous est donnée par l'Esprit Saint, et qui nous permet de coopérer avec lui et de nous orienter vers une fin, un but qui dépasse tout ce que nous pouvons, nous, par nous-mêmes, découvrir. Cette liberté, c'est donc une liberté divine qui nous est donnée. Ce n'est plus une liberté humaine. C'est une liberté divine, c'est la liberté de l'Esprit Saint lui-même à laquelle nous participons. C'est ça qui est prodigieux. C'est l'Esprit Saint qui prend possession de notre bonne volonté et qui nous demande de coopérer à cette bonne volonté. On est comme un planeur sous le souffle de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous laisse la possibilité de nous orienter. Et c'est lui qui nous oriente en même temps que nous orientons. L'action de l'Esprit Saint et la nôtre ne fait qu'un. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui nous dirige et c'est nous-mêmes qui nous nous laissons orienter par lui. Et c'est nous-mêmes qui nous nous orientons. Et l'Esprit Saint aime souvent de se cacher pour que ce soit nous-mêmes qui puissions nous déterminer. Et c'est en même temps lui, puisque nous nous laissons entièrement sous sa conduite. Et l'Esprit Saint aime de voir ses initiatives. Ce n'est pas du tout une passivité psychologique, vous voyez. Ça, ce serait très faux. La passivité psychologique, elle, n'implique aucune liberté. Quelqu'un qui est dans la passivité psychologique, vous savez, c'est l'indétermination la plus absolue, n'est-ce pas? Alors c'est le retour au berceau, et c'est le complexe océanique. Alors à ce moment-là, on est dans l'indétermination la plus absolue, alors les vagues vont d'un sens, les vagues vont dans l'autre sens, on se laisse mouvoir complètement, on a la psychologie de la planche, on fait comme tout le monde, on se laisse aller. Ça c'est tout à fait le manque de liberté complète. C'est l'indétermination la plus absolue. Et quand on est dans l'indétermination la plus absolue, on se laisse déterminer par tout le monde. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'action de l'Esprit Saint en nous, c'est l'abandon divin. On sait que l'Esprit Saint nous aime plus que nous nous aimons. On sait que l'Esprit Saint a une lumière plus profonde que nous. On sait que l'Esprit Saint, il est celui qui est capable de nous orienter plus que nous sommes capables de nous orienter. Alors nous lui demandons de prendre possession de notre prudence par le don de conseil. C'est le don de conseil qui fait ça, c'est les dons du Saint-Esprit, et nous avons tous les dons du Saint-Esprit. Et donc cette expérience de la liberté des enfants de Dieu, tout chrétien doit l'avoir, s'il est chrétien. Un chrétien qui ne l'a pas, saint Augustin dirait, il est encore de l'Ancien Testament. C'est saint Augustin qui dit ça, c'est pas moi. Et c'est très beau. Un chrétien qui ne vit pas de l'Esprit Saint et qui ne vit pas du souffle de l'Esprit Saint, il est de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il vit des commandements de Dieu, comme faisait un bon Israélite, craignant Dieu et juste. C'est déjà pas mal. Mais c'est une morale, vous voyez. C'est pas plus. Et la vie chrétienne est plus que ça. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. C'est une vie de surabondance qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Et cette vie de surabondance est une vie d'amour et une vie qui implique une nouvelle liberté. Cette liberté, c'est donc une liberté qui vient directement de Dieu, qui se fonde sur l'amour. C'est vrai. Il y a une amitié se fait entre nous et l'Esprit Saint. Il y a une amitié qui se fait entre nous et le Christ. Et c'est donc cette liberté des amis. Mais ici, à un niveau supérieur, qui n'est plus uniquement un ami humain, qui est une amitié divine, avec l'Esprit Saint et avec le Christ. Et j'allais dire, c'est encore aussi la liberté d'un artiste. Ah, c'est plus délicat, ça. Et c'est pourtant important à noter. Je dois me servir de ces deux analogies. L'analogie de la liberté de l'ami et la liberté de l'artiste. Pour comprendre autant qu'on le peut ce que représente cette liberté divine des enfants de Dieu. C'est bien la liberté de l'ami, parce que c'est à l'intérieur de l'amour. L'Esprit Saint nous élève tellement haut que, de fait, nous avons, grâce à lui, un regard d'une profondeur et d'une élévation toute nouvelle par rapport à tout ce qui regarde les réalités quotidiennes de notre vie. Donc, nous pénétrons beaucoup plus loin. Et nous avons ce regard qui nous permet de voir mieux la contingence d'une quantité de réalités humaines. Parce que l'amour nous a élevés plus loin. Plus un amour est grand, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de l'amour d'amitié, plus un amour est fort entre deux amis, plus ils sont libres à l'égard de toutes les réalités secondaires. Alors si nous comprenons l'intensité de l'amour qui existe entre notre cœur transformé par la grâce et l'Esprit Saint, nous comprenons à ce moment-là que cette intensité d'amour qui est divin, et donc il y a quelque chose d'infini, nous donne une liberté, mais beaucoup plus grande que toute autre liberté humaine. Une liberté unique. Une liberté qui fait que nous sommes libres comme des enfants de Dieu, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Et nous avons cette liberté intérieure. Ça ne veut pas dire que tout notre devoir disparaît, pas du tout. Toutes les exigences profondes que Dieu nous demande par les commandements de Dieu demeurent. L'Esprit Saint ne les supprime pas. La morale demeure. Mais il y a une force intérieure qui nous permet de comprendre que tout cela n'est pas premier. Que ce que Dieu attend de nous, c'est un effort constant d'amour, et donc un renouveau constant d'amour, dans une liberté profonde d'amour, puisque ça va ensemble, la liberté et l'amour. Donc nous prenons cette analogie de l'amour d'amitié, et nous devons prendre aussi l'analogie de l'artiste, de la liberté de l'artiste. L'Esprit Saint, c'est un artiste merveilleux. C'est un artiste étonnant. C'est l'artiste de l'amour. Nous, nous agissons en tant qu'artistes sur la forme hein, des choses et sur les diverses relations. Et ce que nous pouvons faire, c'est modifier les formes et les relations. Mais nous n'agissons pas de l'intérieur. L'Esprit Saint, parce qu'il est l'artiste de l'amour, il agit de l'intérieur. Mais il agit comme un artiste. C'est pour ça qu'il réclame de nous toujours notre liberté pour que nous laissions transformer par lui. Nous sommes la matière sur laquelle il agit. Mais une matière vivante, une matière immense, une matière qui coopère en amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. C'est l'Esprit Saint qui veut agir en artiste pour exercer la taille du Père sur nous, pour que nous puissions aller plus loin dans l'ordre de l'amour. Et nous acceptons cette taille, et nous acceptons que l'Esprit Saint agisse de cette manière. Alors vous commencez à voir comment cette liberté divine, qui est intérieure en premier lieu, peut de fait transformer toute notre vie morale au niveau de nos intentions. Et cette transformation, ce sont les béatitudes évangéliques. Et les béatitudes évangéliques nous donnent ce lien extraordinaire de notre cœur avec l'Esprit Saint. Nous faisons œuvre commune avec lui à travers tout ce qui est la matière ordinaire de la morale. La matière humaine. Tout est transformé par les béatitudes évangéliques. Mais nous pouvons comprendre aussi que même notre sensibilité est changée par cet amour de l'Esprit Saint. Notre corps, notre sensibilité, donc tout l'aspect visible. Il y a des transformations de l'Esprit Saint qui agissent de cette manière. Et c'est par là que nous pouvons peut-être rejoindre ce que je signalais tout à l'heure. Comment se fait-il que l'Esprit Saint, au niveau charismatique, puisse agir fortitaire, de la manière forte, et d'une manière qui, de temps en temps, semble violente, et donc en opposition avec la liberté intérieure du chrétien? C'est que l'Esprit Saint est un artiste. Vous savez bien que les artistes, de temps en temps, agissent avec force. Ça fait partie du métier de l'artiste. Un artiste qui n'est pas fort n'est pas un véritable artiste. Il faut que l'artiste soit fort dans son irascible, parce qu'il lutte avec une matière et qu'il veut que cette matière puisse être transformée. Alors voyez le prolongement de cette liberté artistique poussée jusqu'au bout va nous faire comprendre comment l'Esprit Saint peut, par les charismes, non plus par les béatitudes évangéliques,
mais parler charisme, agir de temps en temps avec violence. Et comprenons bien que cette violence de l'Esprit Saint est toujours ordonnée à une liberté intérieure plus grande. Autrement dit, quand l'Esprit Saint a agi avec violence sur Saul de Tarse, c'était pour que Saul de Tarse, au plus intime de son intelligence et de sa volonté et de son cœur, dise oui à l'action de l'Esprit de Dieu. Mais comme il avait un tempérament particulièrement violent et qu'il était un peu orgueilleux, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, il était très intelligent et il savait très bien ce qu'il faisait, et je crois que Saul de Tarse, avant sa conversion, ne devait pas être très commode. Après, également, n'est-ce pas, mais avant sa conversion, encore moins. Il avait une volonté et une intelligence très nette. Bon israélite, pharisien, cultivé, savait très bien ce qu'il devait faire. On voit très bien que jamais il n'aurait été converti en dehors de ce fortitaire. Je ne vois pas très bien un dialogue de Saul de Tarse avec Pierre. Ça n'aurait pas produit grand-chose. Je ne vois pas très bien un dialogue de Saul de Tarse avec Jean. Ça aurait peut-être produit un peu plus. Mais l'Esprit Saint ne veut pas perdre du temps et il l'a terrassé pour lui donner une nouvelle liberté que Saul de Tarse n'aurait pas compris avant. Il y aurait un dernier aspect, mais je ne veux pas le traiter avec vous. Ce serait de comparer la liberté de Socrate buvant la ciguë et la liberté du Christ acceptant la croix et la liberté du Christ crucifié. Il faudra y revenir là-dessus, parce que je crois que c'est quand même très important. C'est la fine pointe, dernière. J'ai voulu d'abord regarder ce que c'était que la liberté chrétienne en voyant les diverses libertés, mais il y aurait quelque chose qui serait très important à saisir au plan philosophique. La liberté d'un Socrate. Socrate librement prend la ciguë. Et ceci sert de modèle de la liberté religieuse. Et c'est une liberté religieuse. Socrate prend la ciguë. Il considère que sa vie, ce n'est pas grand-chose et qu'il doit obéir aux lois. Bien que ses amis lui offrent la possibilité de s'évader, il n'écoute pas. Jésus avait la possibilité de s'évader. Il avait la toute-puissance de Dieu. Quand Judas a voulu l'arrêter, et quand il avait les gardes et les soldats avec lui, et que Jésus dit « Qui cherchez-vous ?» Ils disent « Jésus le Nazaréen ». Et Jésus dit « C'est moi ». Et à ce moment-là, il s'effondre. Jésus n'avait qu'à laisser là. Il aurait pu les laisser là, puis partir. Donc, librement, il accepte d'être arrêté. C'est très important de comprendre ça. Librement, il est arrêté comme un prisonnier. Et Jésus va librement à la croix. Et Jésus offre sa vie librement. Il devance l'heure de sa mort. Donc nous avons là un acte d'une liberté unique, infiniment plus grande que la liberté religieuse d'un Socrate. C'est la liberté du Fils bien-aimé du Père. C'est la liberté de celui qui peut offrir sa vie. Il peut offrir sa vie en holocauste d'amour. Et ça, c'est la liberté suprême. Il n'y a pas une liberté plus grande que celle-là. offrir librement sa vie pour manifester son amour. Se servir de la vie pour montrer qu'on aime. Et pour nous, c'est le modèle. Et c'est en même temps la source de notre liberté chrétienne.